Alors pour cette deuxième partie, Michel, tu as prévu de nous parler du stade de Narbonne qui souffrirait d'un manque de reconnaissance, d'un label préconisé ou voire imposé par la Ligue de rugby. Ceci concerne évidemment le Racing Club Narbonne,
oui,
Méditerranée.
Ce qui me permettra de revenir sur un sujet plus général, oui.
Oui. Et dans un rapidement, nous reviendrons ensuite pour clôturer cette deuxième partie sur un petit point de, comme je l'annonçais tout à l'heure, sur un petit point de la situation politique locale. Mais
oui,
le stade et le Racing d'abord.
Oui. Alors, je vais pas commenter ici le match d'hier, quoi, hein, contre Angoulême, du tout, en fait, hein, ni l'état dans lequel était la pelouse.
On est dans des considérations
beaucoup plus générales, oui, effectivement, puisque peu de gens connaissent, à savoir que le Racing Club Narbonnais, Méditerranée, a un manque à gagner de 200 000 euros par an, qui est consécutif au fait que le stade ne correspondrait pas au label défini par la Ligue, hein, qui finance ce genre de choses, pour des raisons qu'il n'est pas forcément nécessaire de décrire ici, pour
entrer dans
le détail, éclairage, etc.
Oui.
Hein. D'autre part, la pelouse n'est pas non plus dans un très bon état, d'après ce que je crois savoir.
Oui, Narbonne n'est pas le seul endroit à ce qui se dit.
Du côté de Perpignan aussi, c'est pas mal. Et d'après les techniciens de la chose, la tribune officielle et les loges d'aujourd'hui qu'elle contient ne seraient pas du tout aux normes de ce que un club professionnel devrait attendre d'un équipement de qualité pour y accueillir des sponsors, disons, haut de gamme, plutôt que de se limiter aux quelques promoteurs immobiliers locaux. Je ferme la parenthèse.
Oui. Bon,
bref,
alors, que faire ?
toujours est-il qu'il semblerait qu'il y ait dans le paysage politique local des propositions de rénovation de ce stade qui avoisinerait la modique somme, si je puis dire, à minima de 5 millions, disons plutôt 8 millions d'euros.
Pour être à peu près correct. 5 millions à investir pour être dans les normes.
Au minimum.
Ah oui,
pour être dans les normes de ce qu'aujourd'hui fait un patron de club professionnel considère
Alors,
pour un actif de qualité. Quoi.
Si je retente l'arithmétique que tu avais tenté pour la LGV la dernière fois, le ratio 200 000... 5 millions, ça fait quand même 25 fois plus un ratio de 1 à 25. Alors, faudrait investir 25 fois plus pour que chaque année, ils aient droit à ces 200 000 euros.
Ouais,
Compte d'apothicaire.
Non, 5 millions d'euros. Non, tout ça pour dire... Si je parle de cette affaire-là, ce n'est pas pour en parler et pour ne traiter que du problème du stade et du Racing, c'est pour le placer, cette question-là, dans un contexte beaucoup plus général, qui est celui de ce quartier. Le Narbonnais connaissait bien, de l'Églacéral. Et pour constater que dans ce quartier, il y a une concordance d'événements, de programmes, d'investissements, extrêmement lourd d'un point de vue en termes d'investissement, mais aussi en termes d'effets sur l'environnement, que ce soit sur les flux, les réseaux, les flux automobiles, la logistique, le parking, les aménagements divers et variés.
Rappelons les gros projets.
Le Murena, 40 millions d'euros, le futur grand quartier, plus de 1000 habitants, un parvis de théâtre qui est dans un état lamentable qu'il faut rénover, un aspirateur qui est au milieu d'un champ.
Qui n'aspire à rien.
Les anciens locaux de la DDE qui sont maintenant une friche, quasiment industrielle, qui est dans un état épouvantable. Un aménagement des bords de la Robine jusqu'au nouveau quartier qui est à faire.
Et la salle multimodale.
La salle multimodale en projet. La rénovation du parc que porte monsieur Bascou. Un comité régional du Languedoc qui ne sert plus à rien puisque maintenant c'est entre nous, ça se traite. Enfin bref, une concordance d'événements absolument, de programmation énorme.
Ouais.
Il y a des millions, d'euros, là, qui sont en train de bouillir, si je puis dire, en termes de projet, de programmation, de réalisation. Et arrive, cette salle multimodale, dans le paquet, si je puis dire. Et au moment, où le stade de rugby lui-même, pose problème. Alors, moi, ce qui me surprend et qui me quelquefois me met me met en colère, c'est qu'il n'y ait pas eu un seul acteur, ou plusieurs acteurs, en fait, qui sont en situation de gérer ces affaires, hein, parce que là, on est en plein dans le millefeuille administratif, hein. Il y a la région pour le Murena, il y a l'agglo pour le parc des expos, il y a la mairie pour le stade, en fait, la salle multimodale, en fait, il y a l'État pour, du côté de sa fiche industrielle.
Il y a
l'INF de France pour le ménagement des bras de la robine. Bref, on est vraiment dans le millefeuille. Eh bien, il n'y a pas un acteur, il n'y a pas deux acteurs qui, à un moment donné, soient mis autour d'une table, en fait, effectivement, qui est plutôt pris l'initiative de réunir, en fait, tout ce beau monde, en fait, autour d'une table pour tenter effectivement d'assurer un minimum de coordination nécessaire, tant sur la fois sur les objectifs, hein, que sur les programmations de ces événements. Voilà. Par exemple, arrivant en fait ce projet de rénovation de stade, on aurait pu imaginer que du coup, bon, on mette un peu en stand-by en fait la salle multimodale pour dire, mais effectivement, bon, avec cette rénovation de stade, non seulement on résout un problème qui est évident et qui est porté par le Racing, mais en même temps, hein, on résout le problème d'une salle dédiée au sport de salle, au sport de salle comme le volley et le handball, qui coûtera bon beaucoup moins cher effectivement que ce qui est proposé à la salle multimodale. Donc voilà. Un exemple typique sur un tout petit morceau du territoire du Grand Narbonne, qui est ce gros quartier de Glacéral, qui est une entrée de ville en fait absolument remarquable, qui était post-problème en termes de flux de circulation, où il y a tous ces grands projets avec des sommes considérables à clé qui partent effectivement qui partent dans tous les sens, portés par des acteurs différents, sans qu'il y ait jamais eu, en fait, sur cet ensemble-là, une réelle coordination à la fois d'objectifs, de programmes et de gestion.
Ce qui nous amène à faire le point de la situation politique locale, Michel.
Oui, alors très rapidement, hein, voilà, on est à mi-mandat maintenant, donc tous les acteurs, peu ou prou, se positionnent pour les futures municipales qui, d'après ce qu'on croit savoir, seraient reportées d'un an pour les cumuler avec je ne sais plus quelle autre élection, je crois les européennes, enfin je ne sais plus très bien, mais peu importe. Et voilà, donc tout le monde maintenant est en train de se positionner pour dire mais comment on va y aller, avec qui, comment, etc. Alors, qu'on rappelle quand même la situation qui a pas mal bougé depuis les dernières élections présidentielles, en fait, et législatives, hein. Et la première, en fait, constatation que l'on fait, c'est la quasi-disparition du paysage, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, du Parti socialiste, hein, puisque là, sa représentante, son représentant à la présidentielle a pris une énorme gamelle avec son 6% dans un département qui traditionnellement amenait le candidat en question à des hauteurs quand même relativement importantes, et deux, sa candidate locale qui était pourtant bien implantée, qui avait le soutien implicite du maire de Narbonne, Madame Farr, est arrivée quatrième, enfin, et encore péniblement, avec 13% des voix, avec l'apparition avec l'apparition de nouvel acteur à gauche qui n'existait pas, qui est la France insoumise. Donc on est
un bouleversement.
Jacques Baspou, qui était président socialiste de la Globe, a démissionné et n'est plus socialiste à ma connaissance.
Dans quelques minutes.
Hein, et donc l'apparition de nouvelles forces politiques, la France insoumise et la République en marche. Du coup, le paysage aujourd'hui il est un peu embrouillé, en fait, hein, il n'est pas clair du tout. D'autant que je crois savoir que du côté du Parti socialiste, il y a quand même la volonté, notamment de Marianne Farbe, qui a été mandatée apparemment, si j'ai bien compris, par la Fédération audoise, pour remettre de l'ordre, c'est-à-dire pour remettre dans la bonne direction la section socialiste de Narbonne. Débarrassez-moi de tout ce qui était ambigu, qui ont voté plus ou moins pour Macron et qui ont fait plus ou moins la campagne de M. Perea, sans le dire ouvertement. Ce qui, de mon point de vue, va certainement se traduire par l'apparition de nouveaux secrétaires de section, dont j'attends avec intérêt le profil pour bien vérifier de quel côté ils penchent, ou à droite, ou au centre, ou à gauche. Cela dit quand même, les premiers mouvements que j'ai pu constater, en fait, du côté de J'aime Narbonne, qui est l'association qui avait été mise en place par... il faut le dire clairement, quoi, hein, par les socialistes, afin de regrouper, de faire un mouvement beaucoup plus large de rassemblement. J'aime Narbonne. Bon, apparemment, le secrétaire général précédent, qui était un marcheur, en fait, militant, ne l'est plus. Et celui qui l'a remplacé est clairement, militant socialiste, plutôt, en fait, penché vers la gauche que vers le centre ou la droite. Donc il laisse présager, effectivement, des mouvements divers de ce côté-là. Que va faire Jacques Baspou, qui est président de l'agglo? Est-ce qu'il va...
Monsieur Mouly, lui, ayant déjà dévoilé son intention.
Oui, mais il faut faire attention à ce genre de déclaration, oui, parce c'est en général,
non, mais, une déclaration.
Je veux dire, pourquoi? Parce que, en général, quand un élu en place comme bon, maire, en fait, ou même pas, désigne son adversaire, c'est parce qu'il considère cet adversaire-là comme le meilleur pour lui, c'est-à-dire celui qu'il est capable de battre. Donc, je dis pas ça pour vexer, en fait, Jacques Bascou, mais c'est une loi, en fait, que tout le monde connaît, notamment dans l'ambiance politique. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, pour Didier Mouly, la situation n'a jamais été aussi bonne pour lui, parce qu'effectivement, il a devant lui, en fait, hein, une droite qui a clairement, je parle du Parti Républicain, qui est très affaibli et qui a clairement dit maintenant, bon, je ne joue plus seul, donc ça sera toujours derrière Mouly, quel que soit effectivement son programme, en fait, et son bilan. Et puis, à gauche, bon, c'est plus que compliqué, c'est très compliqué.
Voilà. Bon, enfin, finalement, ce bilan, c'est quand même beaucoup d'incertitudes.
Beaucoup d'incertitudes. Et à mon avis, il faut attendre encore une petite année pour que la clarification, enfin, si tant est que bon, elle se fasse. Mais je vois très bien des tentations du côté du PS de faire des alliances avec le PC, qui n'a pas lui envie d'être avec la France Insoumise, et puis la France Insoumise partir toute seule. Ce qui fera quand même beaucoup de monde à gauche.
Ça fait quand même pas mal de points d'interrogation les uns à côté des autres.
Oui.
Et ce qui nous permet de marquer une deuxième pause.